comme les autres.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346.
Hello. Il y a des gens qu'on admire et des gens qu'on trouve extraordinaires parce qu'ils ont des projets puis parce qu'ils s'impliquent vraiment de façon concrète pour un monde meilleur. Ça a l'air utopique tout ça, mais ces gens-là existent pour vrai, des vraies bonnes personnes. Là, on va parler avec un entrepreneur sénégalais, Tion Niang, qui était de passage à Montréal dans le cadre de l'événement Montréal Connect. Monsieur Niang, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous définissez comme un entrepreneur social. Là, vous étiez à Montréal pour cet événement-là, Montréal Connect, pour une conférence. De quoi vous parliez?
Bonjour.
Oui, est-ce que vous m'entendez bien?
Voilà, je vous entends bien.
Oui, je vous demandais de quoi parlait votre conférence dans le cadre de Montréal Connect.
Ah, ma conférence ici, Montréal Connect, parlait de la révolution numérique. Et de la place de l'Afrique dans la révolution numérique. Et voilà ce qu'on est venu participer avec Montréal Connect ici à Montréal.
OK, je lisais beaucoup de choses sur vous. Il y a énormément d'articles parce que vous avez une histoire quand même assez particulière. Là. Vous venez d'une famille de 28 enfants au Sénégal. Et dans plusieurs de ces textes-là, on parle toujours de cette analogie. On dit vous êtes passé de plongeur à milliardaire. Est-ce que vous avez l'impression d'incarner le rêve américain, M. Niang?
Bon, le rêve américain, oui. Le rêve américain parce que je suis arrivé là-bas avec presque rien, $20 en poche. Et l'Amérique m'a donné une belle opportunité de pouvoir réaliser mes rêves. Mm-hmm. Et de pouvoir réaliser mes rêves. Donc, cette opportunité, maintenant, je suis de retour en Afrique pour pouvoir partager cette opportunité avec ma communauté et mon pays d'origine qu'est le Sénégal.
Ben oui, parce que en même temps, c'est ça, quand vous êtes une personne qui avait bénéficié du rêve américain comme ça, que l'Amérique vous a beaucoup donné, est-ce que vous sentez justement une pression de retourner en Afrique justement pour aider les communautés là-bas? Est-ce que c'est une espèce d'obligation morale?
C'est toujours une obligation quand on a quitté notre pays d'origine pour aller chercher le savoir, l'opportunité, l'économie, mm-hmm. pour pouvoir... c'était toujours le but, c'était le but à la base, c'était pour retourner aider nos familles, nos communautés, mais aussi participer sur la construction de notre cher continent. Donc, j'ai jamais oublié ça au début. Et donc, quand les portes sont ouvertes pour moi, j'ai dû avoir la chance, pas seulement de faire de belles choses aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Donc là, maintenant, c'était le moment de faire le retour et partager cette expérience avec la jeunesse de mon pays, le Sénégal et le continent, par les projets que je suis en train de faire sur place, de l'agriculture et aussi le digital, etc.
Oui, puis il y a le projet d'électrification aussi qui est quand même assez ambitieux, là, électrifier 100 millions de foyers. C'est quand même un des enjeux quand on parle de projets comme ceux-ci dans les pays en développement, c'est qu'ils sont souvent justement des projets qui partent de l'Occident avec de la bonne volonté, mais souvent on a une piètre compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que vous croyez, par exemple, qu'il est possible pour un pays, par exemple, comme le Canada, ou les États-Unis, de réellement aider un continent comme l'Afrique sans tomber dans l'espèce de syndrome du white savior? Hein?
Bon, c'est possible si on arrive en Afrique pour être des partenaires gagnants-gagnants, des partenaires de transfert of knowledge, d'exchange. C'est toujours possible à ce niveau. C'est très compliqué quand c'est comme avant où de l'Ouest viennent en Afrique pour, pas en partenariat, mais pour donner des leçons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, très bien.
L'Afrique aujourd'hui est en marche. C'est une jeunesse très dynamique, une jeunesse vibrant, une jeunesse qui a voyagé le monde, qui veut des nouvelles choses, qui est en train de se faire. L'Afrique est en construction. On sait que l'avenir du monde aujourd'hui, on va jouer un rôle capital par rapport à ça, parce que vous voyez le growth qui se passe en Afrique. Et aujourd'hui, tout le monde est en Afrique en train de faire du business. Donc, on regarde tout le monde maintenant, qu'est-ce qu'on peut gagner de ces partenariats avec nos partenaires. Mais les partenariats ne sont plus les mêmes comme avant, où Les autres, ils viennent, ils donnent des leçons, ils prennent ce qu'ils veulent, mais ils nous donnent des aides. L'Afrique n'a plus besoin d'aide, l'Afrique aujourd'hui. Mmh. Ce qu'elle a besoin, c'est des partenaires économiques, gagnant-gagnant. Si c'est le Canada, c'est des partenaires gagnant-gagnant. Le Canada gagne et l'Afrique gagne, comme vous le faites ici avec la Chine, comme vous le faites avec les États-Unis, comme vous le faites avec l'Europe. Voilà cette nouvelle Afrique que vous voyez avec une nouvelle génération qui a aussi voyagé le monde et qui comprenne comment ça se passe, nation building, you know?
Oui, puis en même
temps. Moi, j'en fais partie de cette nouvelle génération de jeunes leaders africains qui sont conscients de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde.
Puis en même temps, vous dites, M. Nyang, que les pays souvent prennent sans trop redonner ou sans trop se préoccuper du sort des autres. On parlait du rêve américain tantôt. Rêve américain, quand même, qui est basé largement sur l'exploitation des ressources, l'exploitation humaine aussi, là.
Bon, ça dépend de qui parle, hein. Mais moi, en tant que quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, je ne vois pas ça. Je ne vois pas quelque chose qui est quelqu'un qui a exploité. C'est au contraire.
Mais il y a des inégalités. Oui, mais il y a des inégalités.
Il y en a partout. Hein. Il y en a ici, il y en a en France, il y en a partout dans le monde. Tu vois, cite-moi un pays dans le monde qui n'a pas d'inégalité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. On doit travailler pour fermer les inégalités. D'accord? Mais on ne peut pas singulariser les États-Unis comme c'est le pays qui a plus d'inégalités dans le monde. Moi, je trouve que c'est faux. Parce que je viens d'un pays au Sénégal où il y a pas aussi les inégalités. Il y a des opportunités comme ici. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que l'Afrique m'a fait naître et l'Amérique m'a fait grandir. Et aujourd'hui, c'est à moi de retourner dans mon pays et redonner ce que j'ai appris des États-Unis.
Vous avez travaillé d'ailleurs avec l'ex-président américain Barack Obama pour convaincre les jeunes d'aller voter. Depuis quelques années, on voit beaucoup de cynisme chez les jeunes en ce qui concerne la politique. Est-ce que les politiciens, qu'est-ce que les politiciens devraient faire pour inspirer les jeunes, les convaincre de recroire en un système peut-être qui les a déçus, là?
Mais depuis longtemps, la jeunesse n'a jamais très engagée en la politique. Que parfois, dans des décennies, on trouve des leaders comme Obama qui sont venus, qui ont inspirer la jeunesse à retourner vers la politique, mais ça n'a pas resté longtemps, c'est comme toujours, parce que les jeunes sont toujours beaucoup plus progressifs que nos politiques. Nos politiques sont toujours beaucoup moins progressifs par rapport à nos jeunes. Donc, ce que je dirais aux politiques, c'est d'écouter plus la jeunesse, et parce qu'avec la jeunesse, on renouvelle les choses, on renouvelle les idées, on innove, on crée, on trouve d'autres solutions pour les problèmes qu'on a devant nous chaque jour en tant que politique pour pouvoir régler les problèmes. Il faudra impliquer la jeunesse, il ne faut pas les écouter. Il faut aussi les écouter, et parce que l'avenir qu'on est en train de créer, c'est pour eux. Et on ne peut pas créer l'avenir pour quelqu'un et ne pas l'impliquer dedans. On ne peut pas prendre des décisions sans eux et prendre des décisions pour eux sans eux. C'est ce que je dis toujours partout dans le monde. Il faut impliquer les jeunes, pas seulement dans des points où ils vont aider à passer les flyers dans les streets, etc., mais être dans des instance de décision, de faire partie des gens qui vont prendre les décisions. C'est là que tout le monde peut gagner.
En même temps, j'ai l'impression, M. Nyang, que les jeunes sont un peu découragés. Là, on est dans une époque très cynique, notamment par rapport à l'environnement. Comment on fait pour donner espoir à ces jeunes-là? Parce que je pense que ce qu'on entend beaucoup, là, c'est que pour la première fois, il y a des jeunes qui veulent pas faire d'enfants. Du moins, ici au Canada, c'est ce qu'on entend beaucoup, là, des gens qui disent, ben, il y a pas vraiment de futur, on s'en va droit dans un mur. Comment on fait pour redonner espoir au futur?
Il faut parler, il faut éduquer, il faut sensibiliser, et il faut donner des exemples, il faut des exemples qui peuvent inspirer.
Des modèles.
Et ils ont des modèles, voilà. Il faut des modèles, et il faudra sensibiliser aussi ces jeunes. Ils ont besoin de cette sensibilisation. Sinon, ils sont dans cette bubble là et pensent que voilà, on n'a pas besoin de ce que vous dites là. Et pourtant, c'est des choses capitales pour pouvoir continuer la vie. Et là, il faut continuer à les sensibiliser. Je pense que c'est ça. C'est la sensibilisation.
Oui, Tsionang, merci de nous avoir parlé, M. Nyang.